Bonjour et bienvenue sur Radio Tropique et dans cette nouvelle émission de Résonance. Résonance part sur les routes de la région. Au cours de cette saison radiophonique, nous vous invitons à parcourir les routes de la région Rhône-Alpes pour aller à la découverte d'initiatives, de projets culturels et artistiques afin de mieux en parler et de confier ainsi la parole aux porteurs de ces initiatives. Aujourd'hui, troisième émission de notre enquête régionale, conservatoire et handicap, où en est-on ? Cette enquête nous conduit au sein de différentes écoles de musique, associatives ou municipales, de conservatoires de musique, soit rayonnement départemental ou régional de la région Rhône-Alpes. Avec les équipes d'enseignants, la direction, les parents d'élèves, les élèves ou adultes en situation de handicap, nous observons quelle est la situation en 2014. Comment les enfants ou les adultes en situation de handicap sont accueillis dans ces espaces de pratique musicale? Comment cela se passe? Comment favorise-t-on l'accueil du handicap en milieu ordinaire, dans l'école de musique, dans le conservatoire? Vous êtes bien toujours sur Tropique FM et dans Résonance. Après le conservatoire à rayonnement régional d'Annecy, l'école de musique de Bassin s'implantait au centre hospitalier et de soins tout à côté de Chambéry, le conservatoire à rayonnement départemental de Bourg-en-Bresse, agglomération. Nous voici aujourd'hui dans l'Isère pour cette quatrième émission au conservatoire Hector Berlioz, communauté d'agglomération à Bourgoin-Jallieu, dans lequel cette émission a été enregistré le 20 mars dernier. Alors pour cette quatrième émission de notre enquête régionale conservatoire et handicap, où en est-on ? J'ai le plaisir d'accueillir Florent Schrosser, directeur du conservatoire.
Bonjour.
Bonjour. Nicole Demangea, professeur de danse.
Nicole Demangea.
Demangea, pardon.
Bonjour.
Demangea, je corrige tout de suite, merci. Geneviève Bruyas-Tabardin.
Bonjour.
Professeur de formation musicale, Bruno Teruel, aussi professeur d'accordéon au conservatoire.
Bonjour.
Bonjour. Lucien Kinzonzi, aussi éducateur. Alors, éducateur donc au SAGE qui dépend donc du foyer Nord-Isère et oui. Également de la FIPAIM.
FIPAIM aussi, oui. Bonjour.
Et bienvenue Lucien.
Merci.
Également Isabelle Dufour, vous êtes éducatrice aussi à l'ITEP, alors l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Alors également sur Bourgoin-Jallieu.
Également sur Bourgoin-Jallieu, effectivement. Nous accueillons des enfants de 6 à 13 ans.
Voilà. Bonjour. Bonjour Isabelle et bienvenue. Et puis bien sûr, cette émission n'aurait pas eu de sens si on n'avait pas quelques musiciens et musiciennes également qui participent à celle-ci. Alors nous avons Aurélie, bonjour. Bonjour Aurélie. Nous avons aussi Maxime qui nous a rejoint. Nous avons aussi Jérôme et Cédric aussi également et Gurbuz hein, qui sont là et qui bien sûr ne manqueront pas de nous faire part dans leur ressenti en tout cas d'être en musique et de partager aussi cette belle aventure qui se déroule ici. Alors peut-être Florent Schrosser dans ce qui se passe ici et cette question de l'ouverture, de l'accès à tous, de la musique et d'espace de rencontre que celle-ci procure, c'est quand même une préoccupation. Alors vous êtes là depuis peu, mais c'est quand même quelque chose qui est une préoccupation depuis longtemps dans votre parcours personnel.
Oui,
et professionnel.
Mon poste de directeur est le
la troisième étape de ma vie professionnelle. La première, j'étais enseignant moi-même, professeur de chant choral et direction chorale, et j'avais eu l'occasion en tant qu'enseignant de participer à des projets de ce, de ce type-là. Et ensuite, j'avais la charge de développer des projets artistiques et pédagogiques autour de la voix en Lorraine. Et on a fait tout un travail autour de l'accessibilité de la musique au travers de la voix en direction des personnes en situation de handicap. On a j'avais eu l'occasion de collaborer à ce moment-là avec Résonance Contemporaine.
Absolument.
Et donc, quand j'ai cherché un poste pour ma troisième tranche de vie professionnelle, que je me suis intéressé au conservatoire avec Laure Berlioz, j'ai tout de suite repéré que cette dimension-là était déjà très présente et ça m'a bien sûr beaucoup intéressé, beaucoup accroché.
Oui, parce que là, du coup, ça va être aussi important pour nos auditeurs de, et de réinscrire un petit peu dans, dans cette biographie. Et effectivement, comme vous le souleviez, il y a déjà une historicité importante. Et puis, on pourra aussi le partager avec vous, Geneviève, aussi, bien sûr, dans ce retour, on va dire, un petit peu biographique hein, de cette histoire musicale et humaine qui se déroule ici au Conservatoire Hector Berlioz à Bourgoin-Jallieu. À la fois une initiative de la ville, des services de la ville, des services scolaires également de la ville, mais aussi, aussi une personnalité importante de la vie musicale qui était votre prédécesseur ici, Gérard Lefebvre.
Tout à fait, oui, alors, qui avait à cœur d'ouvrir le conservatoire le plus possible et dans toutes les directions.
Et dans toutes les directions. Hein. Alors peut-être Geneviève, on complétera avec vous, Florent, bien évidemment. Comment cette histoire, elle naît ici, dans un conservatoire, Nord-Isère, Bourgoin-Jallieu?
Alors, cette histoire, elle naît il y a déjà un certain temps, avec d'abord plutôt une intervention raccrochée à une demande de la ville.
C'est ça.
Qui ensuite va évoluer petit à petit vers l'idée que le conservatoire est en pôle ressources. C'est plutôt dans le giron du conservatoire que le développement va être récupéré. Et à ce moment-là, à partir de novembre 2006, on a donc fait une démarche, notamment avec Résonance Contemporaine, vous étiez en quelque sorte notre parrain, pour réfléchir sur comment se mettre en route dans cette aventure, nous, en tant que professeurs de différentes spécialités.
Oui, parce que du coup, il y avait déjà, alors, pour aussi le dire, c'est que ces moments de musique qui existaient, hein, mais, alors il y avait une personne, Lise Bador.
Tout à fait, il y avait une personne qui déjà s'en occupait.
Voilà, qui dépendait des services scolaires de la ville. Et donc, déjà, ces hommes et ces femmes venaient déjà dans l'établissement, quelque part.
Exactement, il y avait déjà un certain nombre de personnes qui venaient régulièrement et qui ont continué à venir. Donc, leur histoire s'est continuée. Continuer sans interruption entre les différentes interventions après 2007. Quoi. Voilà.
Donc la décision importante, du coup, le fait que ça ne soit plus uniquement cette personne qui dépendait des services de la ville, mais comment du coup c'est devenu quelque chose assumé, organisé et suivi par les professeurs donc, du conservatoire. Florent.
Oui, à ce moment-là, ça a même été intégré dans ce qu'on appelle le projet d'établissement qui a été réécrit justement en 2006-2007. Et il y avait à l'époque aussi toute une démarche au niveau du Conseil général de l'Isère dans le cadre du schéma départemental des écoles.
Une démarche très forte. Hein,
très volontaire, avec un soutien spécifique aussi, y compris financier, un accompagnement en formation. Et c'est donc à ce moment-là que les choses se sont un petit peu instituées, je veux dire, se sont consolidées, se sont posées à partir de toutes ces expériences qui avaient lieu depuis plusieurs années.
Oui, parce que du coup, cette présence, voilà, ce travail-là à partir du service d'action scolaire avait déjà un certain nombre d'années d'implication ici.
Il y a déjà des choses qui s'était établi auparavant. Peut-être que la grosse transition, ça a été pour nous que ce soit tout d'un coup une équipe qui s'intéresse à ça. Une équipe qui n'était pas forcément au complet volontaire pour tout de suite prendre en charge des groupes de résidents.
Oui, parce que comment vous perceviez, parce que vous étiez déjà professeur, vous aussi, dans l'établissement, le fait d'avoir ces ateliers dans ce cadre, pas tellement inscrit pour l'instant dans celui du conservatoire, mais d'avoir ces... Vous en aviez connaissance, vous n'en aviez pas connaissance de ce travail de Lise Bador, où il y avait déjà des liens, pas trop?
Il n'y avait pas beaucoup de loin, le lien. Je crois que certains en avaient connaissance, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de liens. D'autant que même au niveau emploi du temps, c'était pas des moments... Voilà, on se croisait peu. Donc, ça n'a pas favorisé cet aspect des choses.
Donc, comme le disait Florent, donc un changement important, parce que là, ça fait partie, à un moment donné, de l'organisation propre du conservatoire. Et donc, on en venait à ce que vous commenciez de soulever, c'est que du coup, les professeurs allaient se trouver impliqués dans cette démarche.
Tout
et ça,
fait.
C'était nouveau.
Les professeurs, et que, qu'ils choisissent ou pas de participer à, tout de suite à la prise en charge d'un groupe. Donc, dans leur réflexion, dans l'interrogation qu'ils avaient vis-à-vis de leur métier et de leur posture. Mmh. Et je pense que c'est ça qui a été un très bel élan. Déjà, c'est de dire bon, qu'est-ce que ça interroge chez nous. Finalement, je redoute un peu. J'ai un certain regard sur les choses. Est-ce que je peux le réinterroger ce regard et est-ce que qu'est-ce que je prends comme part active finalement dans le développement de...
Oui, parce que quelque part, les personnes qui sont ici présentes finalement peuvent par rapport à d'autres, même si la population des conservatoires a bien changé et tout le monde trouve personne n'est identique, personne n'a la même manière de réagir, mais peut-être là encore un petit peu plus, c'est-à-dire il y a peut-être des imprévus un petit peu plus, ça demande un peu avoir de la réceptivité, de l'imprévisibilité, de l'inattendu, donc peut-être des choses qu'on avait un peu moins peut-être l'habitude d'avoir, peut-être dans le cours duel, simplement prof, élève, ou quelquefois le cours collectif, donc du coup, il y avait et puis c'est vrai que le handicap, en tant que tel, quand on le rencontre, à un moment donné, peut aussi porter des interrogations, peut aussi générer des angoisses, des peurs aussi, parce que simplement par méconnaissance et non habitude. Hein.
Et par rapport à ça, du coup, il y a eu un choix très important qui a été fait, c'est de travailler en binôme, voire en trinôme, selon les rôles de chacun. Mm-hmm. Donc en binôme, parce qu'on a chacun des facilités différentes. Quand on est prof d'instrument, prof de formation musicale, on a l'habitude ou pas de gérer un groupe. Donc ça permettait de confronter des regards différents et puis de se lancer dans l'aventure avec un petit peu plus de confiance et en même temps d'avoir parfois la posture de collègues qui étaient en tant qu'instrumentistes, en tant que qui réagissaient à ce qui se passait, qui pouvaient abonder dans des aspects d'improvisation et nous aider à déclencher plein de choses dans ces moments de musique.
Et qu'est-ce que ça... Quand vous vous êtes lancé, je dirais, peut-être dans cette nouvelle manière, peut-être, je ne sais pas si c'est une nouvelle manière qu'il faut dire, mais en tout cas dans ces moments de musique partagés un peu différemment que ceux d'habitude, les réactions pour vous, qu'est-ce que ça a chamboulé, qu'est-ce que vous avez pu trouver comme, quels étaient vos sentiments par rapport à ce moment-là?
Bon, moi, je me demandais déjà par rapport à l'évolution du public des enfants qu'on avait, où commence et où s'arrête la normalité quelque part. Parce qu'on doit toujours gérer des enfants qui ont, eux, des comportements différents. D'ailleurs, nous aussi, adultes, on peut avoir des approches très différentes. Et donc, c'était intéressant pour moi de réinterroger ça. De l'expérience que je pouvais avoir en travaillant avec les handicapés, aussi renourrir ma pratique avec les autres enfants, les enfants que j'avais plus habituellement, ou les adultes d'ailleurs. Et ce que j'ai ressenti qui était vraiment enrichissant, c'était le côté d'une écoute et d'une disponibilité qui était étonnante de la part des résidents. Je trouve qu'il y avait... On n'avait pas à essayer de chercher quelque chose sous une surface. Ils étaient là, présents. Alors qu'on a parfois chez les enfants des aspects des comportements de surface avant de trouver vraiment la sincérité des gens. Et là, on a les gens tels qu'ils sont. C'est cash. Et je trouve que ça, c'était très étonnant dans l'approche au départ de ce travail.
Quand on entend Florent Chausseur, le témoignage de Geneviève et tout ce que ça découle d'interrogations, est-ce que c'est aussi le fait que toute cette équipe de professeurs maintenant a ce vécu derrière lui, comment ça interpelle peut-être comment ça se travaille peut-être avec les autres membres de l'équipe enseignante du conservatoire comment les choses sur un point de vue pédagogique peut-être aussi même partage un peu des choses ou comment vous essayez de votre place de travailler aussi un peu tout ça?
Je pense que les questions que les collègues ont été amenés obligatoirement de se poser en s'ouvrant au public en situation de handicap sont quelque part les mêmes fondamentalement qu'un enseignant de conservatoire est obligé de se poser. Aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même eu une énorme évolution entre la vie des conservatoires il y a 30 ou 40 ans où c'était aux gens de s'adapter au cadre. Je suis un petit peu binaire dans ce que je vais dire.
Non, mais c'est vrai.
Et aujourd'hui, c'est plutôt au cadre de s'adapter à la diversité des publics, de leurs demandes, au-delà des questions de normalité, de handicap. Et je pense que, du coup, ce noyau de professeurs, cette équipe d'une 10-12 professeurs qui sont engagés là-dedans, sont quelque part un peu des précurseurs de toute une interrogation qu'on est obligé de partager aujourd'hui et puis qui est de plus en plus partagée.
Et qui est de plus en plus partagée. Vous êtes sur Tropic FM avec Résonance, toujours dans cette émission enregistrée au Conservatoire Hector Berlioz à Bourgoin-Jallieu. Et là, Bruno Teruel, on vient justement d'entendre une musique que vous avez écrite. Et du coup, peut-être ça va nous permettre d'aborder deux choses. On vient d'entendre Geneviève nous évoquer cette implication de musicienne et de transmetteuse, de rendre ce vécu musical avec ces personnes, cette rencontre avec ces musiciens. Et vous avez choisi bien sûr de faire partie, comme on l'évoquait avec Florent Strasser, de cette équipe de musiciens importants, précurseurs aussi peut-être d'un certain type de travail, mais en même temps du côté instrumental. Alors on va voir pour le côté composition, mais c'est un peu la... Vous êtes professeur d'accordéon ici, et puis du coup, vous avez accepté d'aller dans cette aventure, et en même temps d'être dans cette aventure avec, par le biais de votre instrument aussi également.
Voilà, tout à fait. Alors, bon, c'est vrai que j'ai accepté parce que ben, je pense que dans la mission... Moi, pour moi, c'est fondamental. Dans la mission de professeur du conservatoire, je ne me voyais pas du tout refuser de m'impliquer dans le projet à partir du moment où il y avait une demande de Gérard Lefebvre et maintenant de Florence Strasser. Donc, pour moi, c'est fondamental.
C'était la première fois à l'époque que vous rencontriez des personnes.
Absolument. C'est vrai qu'au départ, avec une certaine retenue, parce que... un peu une peur, une crainte. Qu'est-ce que je peux leur apporter? Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Voilà, c'était un peu. Mais bon, ces craintes et peurs ont vite été chassées, je dirais, par rapport à la force du projet.
Parce de ce que qui se passe.
Voilà. Donc, évidemment, l'idée, c'était de venir avec ses capacités, ses moyens. Et donc, pour moi, c'était en tant qu'instrumentiste. Je me sentais pas du tout en mesure de prendre en charge un groupe. Voilà, donc pendant plusieurs années, j'ai vraiment été là en tant qu'illustrateur sonore, musicien improvisateur, donc était force de proposition, soit était capteur d'intention. D'ailleurs, on a eu des séances quand même assez fortes voilà, ce qui pour moi vraiment ont vraiment à chaque fois régénéré le besoin de faire partie du dispositif, hein, malgré tous les doutes qui sont là, forcément, ouais. Qui étaient là ou qui sont encore
qui
là,
sont encore là.
Hein, oui. Parce que bah, c'est pas simple. On est quand même très spécialisé dans l'enseignement. Hein, voilà.
Ce que vous laissez apparaître, c'est que ça a bouleversé votre manière de comment vous conceviez cet acte de ce que peut être la transmission.
Oui, en tout cas, ça a bousculé, hein, les décertitudes ou des parce que déjà, je me suis rendu compte qu'au niveau des exigences ou des choses qu'on pouvait demander à nos élèves habituels, je me suis rendu compte qu'il fallait relativiser beaucoup de choses. Voilà, peut-être faire preuve d'encore plus d'humilité, hein, c'est possible, parce que dans ce métier, je pense que c'est important. Hein, on n'a pas la certitude, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas si ce qu'on essaie de faire passer, ça passe, donc c'est compliqué. Là, ça a permis
Est-ce que ça a affiné ou ça a obligé peut-être un petit peu plus à trouver la zone d'accord avec l'autre?
Absolument.
Et de se dire, j'ai mon parcours là, il a son parcours là.
Voilà, je pense que effectivement, peut-être que la barrière enseignant-enseigné, si je veux dire, c'est beaucoup affiné, beaucoup plus.
Ça a revisité ces postures.
Moi, j'ai le sentiment, à titre personnel, que je suis beaucoup plus à l'écoute maintenant des demandes ou de ce qui vient de l'élève, de l'individu. Justement parce que...
Ça, c'est important, ce que vous dites, là.
Ça me paraît fondamental. Bon, il y a l'expérience aussi, puisque ça fait bientôt 30 années d'enseignement dans le conservatoire, donc forcément. Mais ça, je pense que ça a accéléré le processus d'être... Et donc, du coup, d'être aussi, d'une certaine manière, entre guillemets, plus performant, parce que quand on est plus à l'écoute, forcément, on échange plus, et puis on... C'est les vases communicants, donc ça, c'est... Enfin, c'est...
Oui, et donc du coup, on va faire le lien maintenant avec ce qu'on a entendu. Hein, du coup, là où c'était un ensemble de professeurs du conservatoire avec une musique que vous avez écrite, mais en même temps qui là sert de support. Alors, on va avoir l'occasion de développer aussi cet aspect aussi du travail qui se réalise ici autour d'un spectacle. Et là, vous êtes en train, puisque là c'est encore, on va le préciser pour nos auditeurs, l'extrait qu'on a entendu, donc qui s'intitule Presque une valse. C'est là une séance de travail. On n'est pas encore quelque chose de fini, c'est tout un travail en cours, hein, dont on a une petite fenêtre, et merci de nous donner cette petite fenêtre musicale bien agréable et très fraîche avec cette presque une valse. Et là, c'est voilà, vous qui avez écrit ces musiques c'est une dizaine de professeurs, sont là.
Alors on a un collectif donc de professeurs qui sont partie prenante du dispositif, hein, donc qui sont aujourd'hui comme Geneviève autour de la table ou d'autres, et puis quelques musiciens qui ont bien voulu participer à l'aventure. L'idée, c'était de former une espèce de petit orchestre. Alors là, on a une ambiance un peu kiosque. C'était un peu...
Mais toute fraîche, aussi, on est tout proche du printemps, et ça voilà, me mettait bien en joie.
En fait, ce qui était intéressant pour moi dans cette démarche, c'est que je sentais en moi une espèce de capacité d'écrire ou d'arranger des musiques, que j'avais envie d'un peu d'assouvir d'une certaine manière, et donc j'ai demandé à Florent l'année dernière si c'était possible d'écrire, ce qu'il a accepté volontiers, donc avec une grande part de liberté. Voilà, la seule contrainte, c'est finalement avec Nicole qui met en scène le projet, qui crée les scènes et donc moi j'avais simplement comme contrainte de coller un petit peu aux idées théâtrales ou de danse ou de mouvements corporels, je suis parti sur plein d'atmosphères différentes. C'était aussi que ce soit coloré, l'idée. Donc il y aura des musiques d'inspiration celtique, d'Europe de l'Est, des créations personnelles, des arrangements. J'ai même arrangé en fil rouge une musique d'Ennio Morricone,
d'accord,
qu'on entend, alors qui est le générique du film Sierra Torrid, pour les les amateurs de western spaghetti des années 60, ou qu'on entend aussi dans le film de Quentin Tarantino, hein, Django Unchained. Voilà, ce que je me suis réapproprié en fonction de ce que Nicole me demandait un peu, mais j'avais une liberté d'écriture assez agréable. Voilà, il fallait que ça colle un peu voilà, à la demande, mais avec vraiment une... Et pour moi, c'était très enrichissant. Donc voilà, ça vient compléter un petit peu toute la démarche qui est la mienne depuis quelques années. Voilà.
Merci Bruno. Alors peut-être ça nous fait le chemin tout ouvert pour aller maintenant vers Nicole de Manger. Et puis justement, alors là avec une partie importante parce qu'on vient d'échanger Geneviève et Bruno côté musical, mais là c'est aussi le côté corps, le côté mouvement, le côté danse qui intervient aussi dans ce projet, qui n'y était pas au départ. Hein, on parlait tout à l'heure de la biographie et de l'historicité. Là il y a la présence aussi du mouvement, la présence de la danse, et ça, quels que soient les... pas l'ITEP, mais je sais qu'en même temps, il y a quand même la mise en mouvement des choses, mais là, vraiment, la danse entre dans ce projet-là.
Oui, alors moi, je suis rentrée un petit peu sur la pointe des pieds, parce qu'au début, j'intervenais une fois par mois, et puis je suis rentrée en 2007, moi. Et vous êtes les musiciens en 2006, moi en 2007. Et puis, très vite, Gérard a dit non, il faut que tu sois là tout le temps. Alors donc, moi, j'ai une formation de danseuse classique, mais je suis une danseuse contemporaine. Et donc, dans le travail de la danse, c'est vrai qu'on est à la recherche de la perfection technique, d'un absolu, d'un dépassement de nos limites. Et le travail avec les personnes en situation de handicap, qui ont mental et qui ont parfois aussi des difficultés physiques, ils ont donc des limites. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler ces limites et de dépasser ces limites. Parce que cette limite, elle est quand même porteuse pour nous enseignants de nous réinterroger et de chercher des chemins. Quel chemin vais-je emprunter pour arriver à les faire travailler et avancer? Alors, c'est vraiment une source de découverte avec eux. Et c'est vrai que quand on arrive dans l'atelier, effectivement, l'atelier est toujours pensé, préparé. Et puis, on propose. Et puis, eux, ils proposent autre chose. Et ils nous font partir et découvrir autre chose. Donc ça demande effectivement une grande ouverture. Et le travail avec le musicien dans l'atelier, et ben c'est ce tricotage ensemble, et c'est de mélanger nos outils. Donc c'est une expérience effectivement très très riche.
Donc ça veut dire aller chercher dans les fermetures les ouvertures finalement.
Exact, voilà, toujours. Et ils sont étonnants de simplicité, parce que nous, techniciens, souvent, en fait, on a tendance à proposer des choses qui sont compliquées. Et eux, ils ont une réponse qui est simple et évidente. Et on se dit, pourquoi on n'y a pas pensé, nous ?
Nous amène, Bruno l'évoquait aussi peut-être un petit peu en ce sens-là, déjà une simplicité, effectivement, humilité et en même temps se mettre au diapason de l'autre finalement. Donc du coup, à pas forcément se complexifier les choses, que ce soit par la parole, que par rapport aux propositions dans le savoir pour le savoir, mais à venir à ce qu'effectivement peut être le champ de la rencontre, le champ aussi du dialogue finalement, et que l'écoute de l'autre... Et que là, il se passe quelque chose quand on change de diapason, en tout cas, si je peux dire aussi un peu.
Oui. Je pense au spectacle qu'on est en train de mettre en œuvre, qui est un gros morceau.
C'est un spectacle qui va aboutir à quelle date d'ailleurs ?
Alors, il aura lieu le mardi 1er juillet à 20h au Théâtre du Velin. C'est un spectacle avec un artiste invité, puisque chaque fois que nous faisons un spectacle, nous invitons un artiste. Il y a 2 ans, c'était Alfred Spirli, musicien. Cette année, c'est Martin Cerf, qui est un circassien jongleur acrobate, qui nous sert donc de fil rouge et de liant pour le spectacle, qui amène un univers avec lui, parce que avec Bruno, quand on est parti sur l'écriture de ce spectacle, moi, c'est vrai que j'avais envisagé quelque chose d'un univers de film à la Kusturica. Voilà, donc Bruno, je disais, on pourrait faire quelque chose, musique d'Europe de l'Est, etc. Et en fait, on a tricoté tout l'été dernier, on a tricoté un peu le spectacle ensemble. Moi, j'écrivais de mon côté, Bruno, il écrivait.
Commencez à imaginer les
Et on a commencé, voilà, les univers. Donc, on a fait ça tout l'été. Donc, toi, tu avais bouclé très vite tes musiques, hein, assez vite, en septembre. Et puis, donc, on écrit le spectacle, mais on s'aperçoit après, on vient avec tous ces éléments-là dans l'atelier. Et puis, les élèves aussi nous proposent plein de choses.
Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une partition totalement toute écrite. Dans son déroulé, il y a certainement...
Moi, je l'écris parce que j'ai besoin d'écrire le spectacle du début jusqu'à la fin parce que c'est une sécurité pour moi. Et donc, j'arrive avec ces tableaux-là. Mais forcément, il y a les musiciens qui sont là. Et les musiciens sont partie prenante et amènent des choses tout le temps. Auxquels moi je n'avais pas pensé. Si on faisait ça, on peut essayer. Et puis les élèves aussi, eux aussi, on amène quelque chose, et ils vont le faire autrement. Et on saisit aussi ça.
Vous évoquez le spectacle, c'est quelque chose qui du coup s'est fait jour progressivement dans le travail ici. Quelle importance a à vos yeux d'avoir ce moment-là de représentation et de partage avec d'autres?
Alors c'est un moment important parce que tous ces ateliers, au moins c'est un moment où ils vont se rencontrer. Alors ils se connaissent parce que souvent ils se rencontrent dans d'autres activités, mais ils aiment tellement le spectacle parce que je crois que ça déclenche chez eux des émotions très fortes. Et ils nous étonnent toujours le jour du spectacle. Ils sont complètement transcendés et ils font des choses assez étonnantes que parfois on n'obtient pas pendant le travail de la répétition. Mais maintenant on sait que le fait d'aller sur la scène... Eh bien, ce sera un moment très fort.
Et ça, du coup, c'est un peu chaque année qu'il y a la production d'un spectacle?
Non, c'est tous les deux ans.
C'est tous les deux ans.
C'est biennal. C'est un gros travail quand même de monter un spectacle comme ça. On a passé le premier trimestre donc à travailler sur le spectacle à proprement dit. On a travaillé les techniques parallèles. Et puis maintenant, on est dans la répétition. On est maintenant vraiment dans la répétition puisque c'est quand même bientôt. Bon, on croise les doigts.
Geneviève, votre sentiment aussi dans cet aspect d'aller aussi vers la représentation, le spectacle est en course.
Moi, je voulais rajouter quelque chose un peu en parallèle, pas directement sur le spectacle. J'ai pas vraiment insisté sur j'ai insisté sur l'aspect binôme, mais sur le fait qu'on était avec aussi une danseuse.
Oui.
Et que cet aspect musique-mouvement est aussi une richesse de langue d'attaque de l'équipe. C'est-à-dire, finalement, entre danse et musique, il y a des déclenchements qui se font. Parfois, c'est le mouvement qui déclenche, parfois, c'est la danse parfois, c'est la musique qui déclenche. Et que ça se nourrit de façon très intéressante dans les ateliers. Et puis d'autre part, c'est vrai qu'on a travaillé avec les talents de chacun et que Nicole a quand même un talent de metteur en scène qui fait qu'on peut se permettre de faire ces présentations tous les deux ans, qui sont effectivement un gros travail.
C'est ça,
mais aussi Nicole intervenant, comme vous l'avez compris, dans tous les ateliers.
Absolument.
Qui ne sont pas suivis par les mêmes professeurs. Ça nous permet d'avoir un fil rouge et qu'elle ait une vue globale.
Pour arriver à avoir cette mise en forme.
Alors après, nous, dans notre fonctionnement de se tendre une année sur l'autre vers un spectacle, c'est vrai que c'est aussi source de... Et à la fois de motivation, ça évite de tomber dans une routine. Se tendre vers un but, c'est toujours quand même assez galvanisant, et pour nous et pour eux.
Eh bien, nous allons écouter maintenant un extrait de ce qui se passe dans ces ateliers, enregistré justement avec un atelier où vous êtes, Nicole, cet après-midi, dans cette préparation. Avec quel musicien sera avec vous cet après-midi?
Alors, Agnès, qui est clarinettiste.
Voilà. Donc, c'est ce que je vous propose d'entendre et de découvrir un enregistrement fait ici, le 20 mars dernier, lors d'un des ateliers qui se déroule au sein du Conservatoire Hector Berlioz à Bourgoin-Jallieu.
En fait, vous êtes trop collés. Je pense qu'on ne va pas faire mieux.
on va pas faire une rencontre.
Parce qu'en fait, la dernière fois, il passait devant.
Ouais, je pense que c'est. Je pense que c'est. En vrai. Oui. On peut refaire.
Oui.
On va refaire.
Oui.
Ça va toujours.
Oui.
Ça serait pas possible, plutôt Yasmine, un peu entre, pas sur le côté comme ça, plus entre Aurélie et Cédric, derrière, mais entre,
oui,
pas sur le côté.
Oui.
Non, là.
Vous êtes sur Tropic FM avec Résonance et nous venons d'écouter justement un petit extrait du travail en cours aujourd'hui pour ce spectacle que vous pourrez découvrir début juillet ici à Bourgoin-Jallieu. Mais aussi une autre partie importante dans toute cette aventure musicale, c'est ce lien aussi avec le médico-social et avec des professionnels aussi qui sont présents dans le cadre de ces ateliers, de ces groupes musiques. Et donc avec vous Isabelle Dufour et puis Lucien Kinzonzi, on va pouvoir aussi évoquer la place aussi, votre place de professionnel, d'éducateur, éducatrice à l'intérieur de ces groupes. Alors peut-être avec vous Isabelle, si vous voulez bien, donc vous êtes éducatrice à l'ITEP et puis vous suivez déjà depuis un petit moment ces enfants. Alors là on est avec les enfants, tout à l'heure on évoquait des adultes en situation de handicap mental, là on est avec de jeunes enfants qui sont accueillis à l'ITEP et qui viennent vivre un peu ces moments de musique ici.
Voilà, ils savent qu'ils ont la chance de participer au conservatoire. Enfin, vraiment, pour eux, c'est une grande valorisation. Ce sont donc des enfants qui présentent des troubles du comportement. Voilà, principalement, là, on a...
Ils ont quel âge, alors, ces enfants ?
Donc, nous, à l'ITEP, on accueille des enfants de 6 à 13 ans. Ceux que j'amène ici ont une dizaine d'années.
Et ça concerne donc combien d'enfants qui viennent ici en musique ?
Cette année, j'ai un groupe de 4 enfants.
4 enfants.
Voilà.
Donc, ils viennent rejoindre Sylvie Vanel et Xavier Jeannot.
Tout à fait, ce sont deux musiciens et qui proposent donc des séances d'une heure toutes les semaines, les jeudis matins. Donc là, ils sont en séance. Donc, c'était des enfants qui sont volontaires, déjà.
Oui.
Déjà, on les choisit comme ça. Et ça change tous les ans, de façon à permettre au maximum de pouvoir avoir cette ouverture-là.
Donc, pendant un an.
Pendant un an, une année scolaire.
Voilà, ces enfants vont découvrir une mise en musique, une approche musicale aussi.
Approche musicale, une approche aussi corporelle, parce que, mine de rien, ils bougent aussi dans...
Oui.
Ils apprennent le rythme, ils apprennent des noms des instruments, parce qu'ils n'ont pas forcément une culture très importante. On visite d'autres musiciens ici sur le conservatoire, donc ils ont aussi une approche de différents styles de musique. Enfin voilà, c'est vraiment une grande ouverture culturelle.
Et dans votre accompagnement au quotidien éducatif, et pour vous, c'est important qu'il y ait cette démarche-là, en complément de tout le travail d'accompagnement que vous développez au sein de l'ITEP, qu'ils viennent ici, qu'ils fassent de la musique.
Vraiment pour eux, ça leur ouvre, ça les rend curieux. Voilà. Après, on discute dans la voiture sur le trajet de retour, mais aussi à l'ITEP, on va faire des recherches sur les instruments, sur des pays. Comme l'autre fois, on avait participé à la semaine contemporaine, donc Batucada, tout ça, qu'est-ce que c'est. On avait fait des petits exposés. Enfin voilà, c'est vraiment. Je trouve que ça apporte une grande ouverture.
Et à l'ITEP, il y a aussi des formes artistiques, de pratiques artistiques qui sont proposées autrement
ou... Oui.
Oui.
Oui, oui.
Quel type de pratiques artistiques
La marionnette.
La marionnette,
voilà,
oui,
par exemple, qui débouche tous les ans à un petit spectacle pour les parents principalement, mais enfin quand même. On utilise aussi les instruments de percussion à l'ITEP. et on présente un petit spectacle à la kermesse. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose c'est pas spécifiquement au conservatoire. C'est vraiment quelque chose global sur l'ITEP.
Oui, ça c'est important. Et pour vous, alors Lucien, vous participez déjà depuis plusieurs années à...
Oui, moi ça fait plusieurs années que je viens au conservatoire. Donc si ma mémoire est bonne, donc c'est en 2004. J'ai pris le relais de Chantal. Non, j'ai pris le relais. Donc Chantal est venue donc avec moi. Donc Chantal Lefebvre, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Donc 2004. Donc j'amenais à l'époque 8 personnes.
Donc, aujourd'hui, ça concerne combien de personnes?
Et aujourd'hui, donc il y a une restructuration au sein de Foyer Norisère. Donc le sage de la Tour du Pin, bon, qui est maintenant devenu sage de Saint-Victor de Cessieux, donc a été délocalisé du côté Saint-Victor. Donc nous, on garde le sage de Bourgoin-Jallieu, donc qui compte comme effectif 20 personnes. Voilà. Donc parmi les 20 personnes en conservatoire, donc il y a 6 personnes, donc 6 jeunes qui viennent avec moi.
Très bien.
Tous les jeudis. Voilà.
Et comment vous vivez ça? Parce que vous aussi, vous êtes musicien, amateur.
Oui, donc.
Hein, également.
De temps en temps, donc j'essaye de taper sur le djembé, de chanter aussi. Hein. Voilà, ouais. Et puis bon, donc c'est un projet d'établissement. Donc on a élaboré le projet d'établissement dans lequel donc il y en avait bien précisé. Donc il y avait. On aurait des partenariats avec oui. des organismes, avec voilà. Donc entretenir avec le conservatoire de Bourgoin-Jallieu.
Donc ça rentre dans une politique globale de l'établissement, de se mettre en lien avec différents partenaires culturels de la ville, de faire pour que les personnes, les résidents, puissent aussi avoir accès.
Voilà. Donc parmi les innombrables activités qu'on leur propose, hein, donc ben il y a tout un panel là. Donc il y a du basket, la mosaïque, le chant. Donc mais il y a aussi partenaire avec le conservatoire. Hein. Voilà, donc il s'est mis en place. Donc, ben, ça fait un moment que ça dure.
Puis, donc, ça fait un moment que ça dure, Jérôme.
Ils sont contents de venir hein, et d'y participer.
Ça fait je sais que vous participez, Jérôme, à un de ces ateliers. Ça fait longtemps que vous faites de la musique?
Oui.
Et comment ça se passe alors en musique alors?
Eh ben, très bien.
Oui. Vous aimez chanter, bouger? On a entendu qu'il y avait la danse. On a entendu qu'il y avait aussi différents instruments.
Chanter et puis bouger aussi.
Ouais. Et vous êtes plusieurs aussi à faire de la musique ensemble.
Oui.
Ouais. Et il y a des instruments que vous aimez mieux que d'autres.
Oui.
Lesquels vous aimez bien jouer? Ouais.
J'aime bien. C'est les balles. C'est les balles, j'aime bien.
Ah voilà, oui, parce que vous travaillez avec Martin Cerf qui vous fait découvrir aussi un peu comment on peut jouer avec ces balles alors. Hein.
Oui, et Jérôme, qu'est-ce que tu fais toi dans le spectacle? Est-ce que tu sais que tu es le personnage principal de ce spectacle? Tu es le passager, notre voyageur?
Oui.
Oui?
Donc vous avez un rôle important dans ce spectacle alors. Ouais, c'est un moment qu'on garde aussi un peu secret, à découvrir, à dévoiler, à venir voir. Hein. Peut-être, Aurélie, aussi, vous aussi, vous faites de la musique, vous participez aussi à ce spectacle, mais aussi à ce moment de musique. Comment vous... La musique, c'est quelque chose qui est important pour vous?
Oui.
Oui. Voilà, si vous rapprochez le micro, voilà, comme ça. C'est important de faire de la musique?
Eh oui.
Pourquoi c'est important pour vous de faire de la musique?
Eh bien, déjà, c'est mon métier.
Ah. Oui.
C'est mon projet de vie, en plus.
C'est important dans votre projet de vie de pouvoir faire de la musique.
Et oui.
Ça, c'est important, ça.
Et oui.
Effectivement. Vous l'avez inscrite dans votre projet de vie, ça.
Et
le
oui.
fait de dire de pouvoir faire de la musique.
Et oui.
En fait, qu'elle parle de projet de vie, donc c'est dans son projet personnalisé. Ouais.
C'est ça.
Donc voilà, donc avec les parents, donc on s'est réunis donc pour faire un projet personnalisé. Dans ce projet, donc c'est là émis le souhait de faire la musique. Voilà.
Donc vous en écoutez chez vous aussi de la musique?
Eh oui.
Qu'est-ce que vous écoutez comme musique?
De tout.
De tout. Ouais. Il y en a, je sais pas. Vous pouvez nous en citer peut-être des musiques que vous aimez beaucoup particulièrement?
Oh.
Ouais. Ou... Pas comme ça. Il y a des, vous aimez plus quoi, chanter, jouer d'un instrument? Qu'est-ce qui vous plaît le plus?
Chanter.
Chanter. Oui. Ah oui. Oui.
Elle a une très belle voix, Aurélie. Très, très belle voix.
Donc, dans ce spectacle, vous chantez alors, dans ce qui est en train de se préparer?
Oui.
Oui, ouais, ça c'est super. Donc là, on va découvrir des talents de Jérôme, des talents d'Aurélie. Et je crois aussi, vous aussi, Cédric, vous avez aussi, vous faites partie de ces ateliers, puis vous allez participer également à ce spectacle du mois de juillet prochain.
Oui.
Oui. Et alors, vous aussi, vous aimez comme ça aussi faire de la musique?
Oui.
Ouais. Et alors, Aurélie parlait de chanter. Pour vous, c'est plus quoi? Vous aimez mieux pratiquer un instrument ou il y a d'autres sonorités qui vous intéressent?
C'est le piano.
Ah, c'est le piano.
Ouais.
Ouais. Et vous en jouez dans l'établissement, chez vous? Vous en jouez un petit peu ici au conservatoire?
Un petit peu. Je m'amuse avec Nicole.
Avec Nicole.
Oui.
C'est un plaisir aussi de venir partager ça avec les autres.
Oui.
Ouais. Il y a Gurbuz aussi qui est à côté de vous et qui participe aussi également à la musique. Vous aimez aussi faire de la musique? Oui. Ouais, c'est important. Oui. Ouais. Ça fait longtemps que vous faites de la musique là déjà, oui. Gurbuz? Ouais. Hein, vous faites partie de ceux qui vivent depuis toutes ces années un peu cette aventure. Oui. Ouais. Alors, du coup, on peut peut-être demander également à Maxime, qui est notre encore invité. Voilà. Vous aussi, vous faites de la musique dans les ateliers, Maxime?
Oui, les ateliers.
Voilà. Et puis, on est très heureux de vous avoir dans le cadre de cette émission. Hein, ça, c'est très important aussi d'avoir votre témoignage et votre parole. Et qu'est-ce que vous aimez faire plus en musique?
Et voilà.
Les balles.
Et le piano. Oui.
Et le piano également. Voilà, les balles, on voit que...
Avec les sacs. Porte...
Pardon?
Avec les sacs.
Avec les sacs. Ah, c'est une autre partie qui fait partie donc des éléments utilisés dans le spectacle.
Chanter, danser.
Chanter, danser. Super.
Et secouer les bras.
Oui.
Secouer les pieds.
Oui.
Faire des exercices.
Oui.
C'est tout.
Bon, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Peut-être Florent Strosser.
Ben en fesse.
Ah. Voilà, on sent qu'il y a toute une dynamique qui est là, qui est présente, qui a des moments forts et on sent bien que la perspective de cet aboutissement de juillet prochain va être encore une étape dans ce cheminement. Quel regard vous portez aujourd'hui un peu sur tout ça finalement?
Ben, un regard attentif, essayant de, à la place qui est la mienne, de faire en sorte que toutes ces initiatives, toute cette énergie investie par toutes les personnes qui viennent de prendre la parole aboutissent à la fois à la dimension spectaculaire qui est une étape importante pour les raisons qui ont été expliquées, parce qu'à un moment donné, c'est un but vers lequel on tend, vers lequel on mobilise une énergie commune. C'est aussi un moment de visibilité de ce travail qui est important pour l'établissement et pour toutes les personnes qui y participent. Mais c'est parce qu'au travers de ce spectacle aussi, c'est ce qui vient nourrir et réalimenter, réoxygéner en permanence ce travail et un projet qui se développe. Donc, historiquement, ces ateliers musique-mouvement se sont bien place, sont maintenant bien confortés. Le travail avec l'ITEP de Montbernier s'est rajouté. On est sur une dimension un petit peu différente, avec un autre binôme, avec d'autres dimensions, comme l'expliquait Isabelle. Et puis donc, depuis quelques temps, depuis principalement la rentrée de cette année scolaire, on a continué à développer, à élargir les propositions dans d'autres directions. Il se trouve que le conservatoire est fortement impliqué dans un plan local éducation artistique avec un pool de 6 musiciennes intervenantes qui interviennent dans toutes les écoles primaires des 23 communes de la communauté d'agglomération.
Il y a un territoire important.
Qui fait à peu près 25 km sur 15. Et donc, chaque année, 2800 enfants ont accès à des projets autour de la musique pilotés par les musiciens intervenants. Et il m'a semblé tout à fait naturel, normal, indispensable que les enfants en situation de handicap scolarisés dans des structures spécifiques puissent aussi avoir accès à ces projets. Et donc, on a développé cette année 3 nouveaux projets, cette fois-ci dans le temps scolaire, où oui. c'est le conservatoire qui va dans les oui. structures, mmh. avec un autre ITEP, celui de Saint-Savin, des adolescents, avec le CA, le CAMS, le Centre oui. d'aide médico-sociale pédagogique précoce, ou quelque chose comme ça. Donc là, ce sont des tout petits, et on s'est centré là sur des enfants de 3, 4, 5 ans. Mmh. Et puis le troisième atelier est avec l'hôpital de jour. Là, ce sont aussi des enfants donc en grande difficulté, avec des troubles du comportement, des troubles psychiques et des handicaps, mais qui sont suivis médicalement et en même temps intégrés dans un groupe scolaire à part entière à l'école Victor Hugo. Voilà.
Donc et là, un travail partenarial très important qui est en train de se mettre en place.
Avec chaque fois les équipes d'éducateurs, bien sûr. Voilà. Et il y a un dernier projet qui n'a pas encore commencé avec le CATTP, Centre d'aide thérapeutique à temps partiel, avec oui. des adolescents complètement déscolarisés, en très grande difficulté psychique et psychologique, où là, il y a un atelier autour de la création de chansons qui va démarrer au mois d'avril dans le cadre de la convention de l'ARS entre l'hôpital et le ministère de la Culture. Voilà.
Donc là, on sent que le conservatoire, petit à petit, par rapport à toute l'histoire qu'il y avait, tout ce projet-là vient nourrir ses développements, vient lui donner toute une place très importante, finalement, parce que tous les conservatoires, enfin, on entend toutes les directions que vous évoquez. Alors, je sais qu'on va être prochainement, bientôt, au conservatoire régional de Lyon, qui lui aussi a un peu des liens avec des classes thérapeutiques, avec certains de ces musiciens, la formation aussi de certains musiciens qui peuvent aller se former au conservatoire, découvrir justement ces ateliers de pratique dans d'autres établissements ou classes thérapeutiques également. Ça devient un projet important finalement.
Oui, ben, la petite graine qui a été semée il y a une quinzaine d'années, qui s'est instituée, comme on le disait tout à l'heure, vers 2006-2007, ouais. Continue à se développer. Et je pense que toute cette dimension va continuer à se développer et à prendre une place importante dans le projet de l'établissement. Il y a on en a déjà parlé beaucoup avec les collègues aussi. Il y a une réponse que pour l'instant on n'apporte qu'à la marge en réponse à des demandes spécifiques. Mais j'aimerais qu'on ait une attitude un petit peu plus d'offre plutôt que de répondre simplement à des demandes. C'est sommes-nous capables aujourd'hui de faire une place à des enfants ou des adolescents ou des adultes en situation de handicap dans nos cursus.
C'est la question que j'allais vous poser.
En étant au contact avec nos en étant élève à part entière.
C'est ça.
Tous les jeunes qui viennent de parler sont déjà élèves à part entière.
Absolument.
Mais disons dans des projets qui avec éventuellement un accès à une pratique instrumentale plus régulière. On a déjà des expériences avec d'ailleurs des jeunes qui sont passés dans les ateliers de Nicole, et qui du coup ont fait passage dans la classe de percussion, par exemple, dans la classe de clavecin ou dans la classe.
Donc il y a déjà des passerelles qui ont commencé de se mettre en place et de se tisser.
Mais ça, c'est quelque chose que je souhaiterais qu'on développe avec une offre un peu plus en allant du côté à la fois des institutions, mais des associations de parents, en passant par la MDPH, la maison départementale du handicap, enfin avoir une...
Oui, d'avoir là aussi ce lien-là avec toutes ces structures, voilà. qui effectivement sont certainement en demande aussi, effectivement, de savoir où elles peuvent trouver effectivement ces modalités.
Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a des parents et des enfants qui auraient ce souhait-là, mais qui pour l'instant ne savent pas que c'est possible.
Tout à fait.
Il faut créer cet espace de communication, et nous, en interne, il faut qu'on continue à être plus performant là-dessus, à se former. Mais là, on a déjà maintenant une équipe de professeurs très, très large qui est capable autour d'elle de pouvoir
ramifier, générer, soutenir. Générer.
Mais ceci dit, je pense que ce travail spécifique là, dont on a plus parlé aujourd'hui autour de ces binômes musique-mouvement vers le spectacle, c'est quelque chose qui restera une dominante forte.
Une dominante forte ici du conservatoire et du projet. Là, oui, on sent ce côté important. Et du coup, comment peut-être petit à petit, on parle quelquefois de parcours différenciés, aujourd'hui, pourrait se mettre en place pour que, quel que soit l'individu finalement, arrivant ici au conservatoire, une proposition puisse lui être proposée pertinente dans tous les sens du terme. Et que du coup, parce que finalement, c'est aussi essayer de faire que l'art, les pratiques artistiques puissent permettre d'être tous ensemble dans ce registre-là.
Tout à fait.
Et ça va être tout l'enjeu.
C'est l'enjeu, comme je le disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui au cadre, quel conservatoire, musique, danse, théâtre, de s'adapter, de proposer, d'imaginer des propositions qui permettent à chacun, quel que soit son parcours, quelles que soient ses difficultés, elles ne sont pas forcément liées au handicap, il y a d'autres difficultés économiques, sociales, de trouver une place dans le projet de l'établissement.
Eh bien, nous arrivons bientôt au terme de cette émission et nous allons retrouver notre rubrique habituelle avec Gérard Bonnefond, au cours de laquelle il nous invite à parcourir l'histoire des pratiques artistiques au sein de l'hôpital.
Fanfare et de l'éducation musicale au mi-temps du XIXe siècle dans l'asile des Quatre Mars. Dans un court recueil de la musique instrumentale dans les asiles d'aliénés, publié en 1860, Michel Palas présente la fanfare de l'asile des Quatre Mars à côté de Rouen. En 1857, le surveillant en chef de l'asile souhaite l'organisation de leçons de musique pour lui-même et une douzaine de gardiens, afin de constituer une fanfare. Mais le manque d'assiduité des gardiens pose un problème. Alors les aliénés sont sollicités. La formation musicale des aliénés implique la mobilisation intense du chef de fanfare afin qu'ils acquièrent les bases du solfège, le rythme et la maîtrise instrumentale. Un travail régulier aboutit à l'autonomie musicale propice pour jouer ensemble. Voilà ce que dit Michel Palas. Enfin, au bout de 3 mois consacrés à la lecture de la musique, à l'étude de la valeur des notes, de la mesure et aux gammes sur les instruments, le maître et le répétiteur purent se convaincre qu'ils n'avaient pas perdu leur temps. Et le jour où quelques malades se trouvèrent en état de faire leur partie, furent pour eux un beau jour. La fanfare atteint la 30aine d'instrumentistes, dont une importante majorité d'aliénés de l'asile. Les défilés et les concerts de la fanfare sont des moments de grande réjouissance. Les jours de promenade, cette fanfare marchait en tête des pensionnaires et ne contribuait pas peu à entretenir la gaieté parmi eux et à varier les plaisirs de leurs excursions. Cette formation amateur obéit aux règles de l'art musical pour faire œuvre commune. Et chaque membre assure sa partie et forme un ensemble dirigé par le chef. Il n'est plus question de maladie ou de malade, mais de pratique musicale. Si l'emprise institutionnelle ne peut être abolie, un souffle créatif permet une échappée belle hors des contraintes dues à leur fermement. Être ensemble, partager des mélodies, des rythmes, être dans une attention réciproque sont une formidable thérapeutique. La fanfare permet de conquérir de la liberté, d'avoir du plaisir d'apprendre. Le chef de la fanfare n'est pas dans une démarche de musique adaptée, tout en tenant compte des limites de certains aliénés. Il n'est pas d'usage, par exemple, qu'une fanfare soit pourvue d'une batterie. Mais M. Briens, le chef de fanfare, l'a ajouté, voulant en faire participer à cette récréation musicale plusieurs malades que leurs infirmités rendaient impropres à l'étude d'un instrument. Pour lui, le but humain passait avant le but artistique. Du reste, cette batterie servait à accentuer plus vivement les fortés et les rythmes, produit un excellent effet pour les exécutants eux-mêmes et pour l'auditoire ordinaire qui les écoute. Le répertoire est le même que celui de toute formation musicale. Marche, boléro, valse. Et lors d'une répétition, la fanfare étudie le chœur des soldats de l'opéra de Faust, la marche du prophète et Eva, une polka charmante. Pas d'instrument adapté, ni de répertoire adapté, mais une pédagogie qui prend en compte les possibilités de chacun. Aucun prérequis n'est demandé pour faire de la musique. Le professeur n'a pris et ne pouvait prendre que des hommes de bonne volonté. Ceux qui se sont présentés sont pour la plupart indigents, âgés, et ne savent pas tous lire. Parmi eux, on compte au moins un tiers d'incurables, et très peu de musiciens, un ou deux, pas plus, avaient une pratique de la musique instrumentale. Une entreprise musicale pour tous, sur la base du volontariat et du désir de faire de la musique ensemble, est ainsi organisée dans l'asile. La prochaine fois, je vous parlerai de la tarentelle, une musique dansante de la région de Tarente, qui a fait office de thérapeutique, symbolique et dansée. Bonne journée et à bientôt.
Merci Gérard Bonnefond. Et nous arrivons au terme de cette émission enregistrée le 20 mars dernier au Conservatoire Hector Berlioz, communauté agglomération de Bourgoin-Jallieu. Je remercie à nouveau Florent Strosser, directeur du Conservatoire, pour son accueil, ainsi que tous les participants à cette émission et aussi tous ses amis musiciens présents avec nous ici au Conservatoire pour cette émission. Grand merci aussi à l'équipe technique de Résonance. J'étais accompagné aujourd'hui de Simon Deborne à la technique et à la réalisation, Laurent Cuzin à la régie générale. Cette émission sera diffusée jeudi prochain de 16h à 17h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, pour écouter votre radio préférée en direct ou en différé, podcaster et connaître la grille des programmes. Vous pouvez vous rendre sur www.tropiquefm.fr. Nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour votre confiance et votre curiosité. Espérant vous retrouver lors de notre prochaine émission. À très vite.